Aujourd'hui, nouvelle série. Fidèle en toutes circonstances de Timothée. Et c'est moi qui ai le privilège d'ouvrir le bal. De Timothée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette épître? Très bonne question. Bon, il semblerait, selon l'historien, qu'il s'agit de la dernière lettre écrite par Paul. Donc, ça a sa signification. De cette manière-là, on considère qu'elle contient les dernières recommandations ou instructions de Paul, et donc, il a son importance, une importance un peu particulière. Et le livre contient quand même beaucoup de choses. Des exhortations personnelles pour Timothée. Tiens bon, persévère, transmet l'évangile, etc. Donc des choses qui s'appliquent également à nous, je pense que c'est l'idée. Également des directives pour l'Église. Attention aux faux docteurs, prêche la parole et des instructions au sujet de la venue de Rome et des nouvelles de l'état de Paul. Aussi des choses qui peuvent nous correspondre, qui peuvent nous apprendre des choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière dans ce livre. Et donc le thème général de la série, c'est la fidélité en toutes circonstances. La fidélité qui est citée très souvent tout au long de la Bible comme quelque chose quand même d'important. C'est important la fidélité. Et on va creuser ça tout au long de la série. Et ce matin, j'aimerais juste partager quelques observations sur le passage, quelques réflexions que j'ai lues et aussi quelques idées sur le sujet. Donc, notre passage de ce matin, c'est tout le premier chapitre de 2 Timothée qui est une exhortation à la fidélité. Donc Paul nous encourage à rester fidèles et on va regarder ça. Mais avant d'attaquer le passage, moi j'aime les définitions. Moi j'aime regarder les définitions et je pense que ça peut valoir le dérangement de regarder des définitions de la fidélité. Selon le Larousse en ligne, qualité de quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Fidélité à un principe. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections ou ses habitudes. Fidélité d'un ami, fidélité d'une cliente. Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Et qualité de quelqu'un qui se conforme à cela. Fidélité d'un récit. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse. Qui ne trahit pas un serment. Fidélité à la parole donnée. Et qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. Il y a beaucoup de choses intéressantes là. Alors pour moi, ce qui ressort le plus, et d'ailleurs je pense que c'est un très bon synonyme de la fidélité, c'est la constance. Être constant pour les bonnes choses, les choses importantes, être constant pour notre attachement à Dieu et à la vérité de sa parole. D'ailleurs, la constance est un attribut de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. c'est peut-être pour ça que Dieu nous demande à nous d'être fidèle, parce que lui est fidèle. Ok, donc, commençons à regarder le passage. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Paul dit à Timothée de raviver le don qu'il a reçu. Je pense qu'on peut entendre la foi. Qu'il a appris d'ailleurs de sa grand-mère et de sa mère. Ok ? Alors, le mot « raviver », c'est intéressant. Il y a une autre version qui parle de « souffler sur la flamme de ta foi ». Donc, Paul utilise comme illustration un feu qu'on veut entretenir et même faire grandir. Alors, entretenir un feu, j'en sais quelque chose. Chez nous, nous chauffons au bois, et en saison, on fait du feu tous les jours. Et je sais que régulièrement, il faut pousser, bouger les braises, bouger les bûches. D'ailleurs, ma femme me reproche des fois d'intervenir un petit peu trop. Mais, chose intéressante aussi, on a des grilles d'aération qu'on peut ouvrir, qui fait un appel d'air, et en fait, ça revient à souffler sur le feu. C'est comme si je soufflais sur le feu, mais c'est plus fort. Donc, illustration intéressante. La foi s'entretient. Si elle est laissée à elle-même, elle peut se refroidir et se réduire au lieu de grandir. Il peut être question juste de faire des petits réglages, des petits changements, ici et là, pour que le feu de notre foi continue. Alors, chose intéressante, Paul ne dit pas ici, il n'insinue pas que Timothée avait tiédi. Il lui dit tout simplement, tu as besoin quand même de t'occuper de ton feu. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je relève là, c'est que Paul ne dit pas vraiment de faire quelque chose. Il rappelle à Timothée une vérité. Il a un esprit non lâche, mais fort. Attention, il ne dit pas non plus à Timothée, essaye d'être fort. Il dit, tu es fort, aimant et réfléchi. Et ça me rappelle d'ailleurs un autre passage qu'on a pu regarder ensemble, lors d'une prédication, Jean 15, et notamment au verset 4, un extrait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et je pense que c'est un petit peu cette même chose que Paul évoque ici. Il faut demeurer, rester attaché à Jésus. Et parfois, demeurer, même si le verbe semble passif, en fait, parfois, ça demande des efforts et de la force. Imaginez que vous êtes à un arrêt de bus perché, exposé tout en haut d'une colline, un jour où il fait un grand vent. Des fois, on est obligé de s'agripper, par exemple sur l'arrêt de bus, pour ne pas être emporté par le vent. Donc, on doit s'agripper et être fort pour rester en place, pour demeurer. Et dans le passage de Jean, on avait vu l'illustration du cep et des sarments. Le fait qu'il est essentiel de soigner notre connexion avec Dieu, notre relation avec lui. Et je pense que c'est aussi un peu ça que Paul est en train de dire ici. Il nous dit de nous rappeler la vérité que nous sommes animés par un esprit qui nous rend fort, aimant et réfléchi. Mais si nous nous rappelons l'esprit qui est en nous, c'est en fait que nous dépendons de lui. Nous décidons de dépendre de lui. Nous tirons notre force en lui. Autrement dit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Oh Richard, encore ça ? Ben oui, d'ailleurs on l'a évoqué tout à l'heure. Si nous vivons sous l'influence de l'Esprit, justement, voici ce qui arrive. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Alors, pourquoi Paul pointe cette idée spécifiquement de courage ? Pourquoi ça exactement ? Bon, certains experts bibliques estiment que Timothée était vraisemblablement très timide. Alors, comprenez-moi. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être réservé, d'être timide. Ça fait partie de la personnalité. Mais il y a des situations, il y a des contextes où ça peut être un inconvénient. Et parfois, Dieu nous demande de surmonter certaines choses, de surmonter notamment des tendances naturelles. Et je pense que c'est le cas pour Timothée. Mais je répète que Paul ne lui dit pas d'essayer d'être courageux. Il lui rappelle simplement que Dieu lui a donné un esprit qui donne courage. Et le contexte où Timothée a besoin de faire preuve de courage et de force, et non de la timidité, c'est dans le verset suivant. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Timothée a besoin de courage pour témoigner. Lui qui pourrait peut-être ne pas trop vouloir s'affirmer si la discussion devient animée, a besoin de courage pour oser parler de Dieu, oser parler de l'Évangile. Alors, entendons-nous. Je ne pense pas que Paul soit en train de dire à Timothée de changer complètement de personnalité, de devenir agressif et de chercher à clouer le bec à toutes les personnes qui ne seraient pas exactement de son avis. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais, et d'ailleurs, c'est intéressant que Paul dit de ne pas avoir honte de rendre témoignage du Seigneur. Je ne vois pas ça négativement. Je ne pense pas que Paul veuille faire honte à Timothée d'avoir éventuellement honte de l'Évangile. Je vois ça plutôt dans un sens positif. Je pense qu'il encourage à oser. Ose, n'hésite pas de témoigner. Tu peux te permettre d'oser. Je pense que c'est ça que Paul est en train de dire. Et je prends cette recommandation pour moi et aussi pour nous. Osons parler de ce que nous vivons avec Jésus. Pas en sautant sur toutes les personnes autour de nous et les obliger de nous entendre. Non. Simplement, n'hésitons pas à parler de ce que nous vivons avec Jésus. Alors Paul continue en donnant plusieurs raisons pour lesquelles Timothée peut se permettre d'avoir du courage et pourquoi il peut oser témoigner. Ok, j'ai déjà parlé de la base de ce courage. Ça ne vient pas de Timothée, mais de l'Esprit de Dieu. Et Paul continue. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Timothée peut se permettre d'être courageux parce que c'est Dieu qui l'a sauvé et qui l'appelle. Et Dieu n'appelle pas Timothée parce que dit Timothée est génial, mais il l'appelle parce que Dieu a décidé de le faire par grâce. Alors l'autre jour, je parlais avec un ami chrétien et il a dit quelque chose qui allait, je pense, un peu dans ce même sens. Cet ami a dit « Dieu a besoin de nous pour construire son Église ». Alors, les mots ne sont pas tout à fait justes parce qu'évidemment, Dieu n'a besoin de personne ni de rien. Je pense que ce serait... Bon, j'ajusterai très légèrement les paroles en disant « Dieu veut de nous ». Il a envie, il a choisi de nous impliquer dans le développement de son royaume. Pourquoi ? La grâce. Dieu a appelé Timothée, et je pense lui aussi, grâce à la grâce. C'est par pur amour pour nous que Dieu veut nous associer à son œuvre. Et moi, je trouve ça génial. Dieu veut qu'on participe à ce qu'il fait sur la terre. Et moi, ça me motive. Prochaine raison que Timothée peut se permettre d'être courageux. Jésus, qui donne cette grâce, est très largement suffisamment puissant pour le faire. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Dieu nous appelle par grâce et cette grâce nous donne le courage et la puissance. Mais c'est logique. La grâce est fournie par Jésus qui a brisé le pouvoir de la mort. Donc Jésus est complètement capable de nous donner courage parce qu'il a été suffisamment fort pour vaincre la mort. Et moi, ça m'aide à m'en rappeler. Alors, Paul continue en se donnant comme exemple. C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Paul montre qu'il est qualifié pour donner des instructions à Timothée. Mais bon, il ne se vante pas un petit peu, là. Oui et non. Il énumère ses qualifications, ça c'est clair. Mais ce n'est pas lui qui s'est établi apôtre. Il ne s'est pas appelé lui tout seul. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a nommé apôtre. Et il mentionne, presque au passage, qu'il souffre pour l'Évangile. Ça nous rappelle parfois que rester fidèle à Dieu, à notre foi, nous occasionnera ici et là, des choses désagréables et peut-être des souffrances. Alors, attention, n'ayons pas le complexe du martyr. Tout dans la vie chrétienne n'est pas douleur et souffrance. Mais n'oublions pas que ça nous arrivera au moins de temps en temps. Et Paul continue avec un « mais » où il donne sa grande raison d'être courageux. « Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. » D'ailleurs, il y a un chant avec ça comme parole, n'est-ce pas? Alors, c'est tellement évident qu'il tire son courage de Jésus, qu'il dit même pas qui c'est, il dit même pas, il dit je sais en qui, il précise même pas Jésus, il n'y a pas besoin, c'est une évidence. Et c'est logique qu'il continue en disant qu'il a la ferme conviction que Jésus est suffisamment puissant pour tout garder jusqu'au dernier jour. Et puis Paul conclut son enseignement à Timothée en lui disant de prendre pour modèle ses enseignements, de les mettre en application avec foi et amour, lesquels y trouvez-vous ? Ben, en Jésus, évidemment. Alors, il lui donne comme dernière instruction de garder intact par la puissance du Saint-Esprit, encore une fois, le bien précieux qui lui a été confié. Alors, on peut comprendre par ce bien précieux le courage dont il a été question en début de chapitre, mais je pense qu'on peut aussi comprendre la foi, notre foi en général. À nous de suivre le même modèle. Mais comment ? Par la puissance du Saint-Esprit. Décidément, beaucoup de choses dans la vie chrétienne se font par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Et Paul termine le chapitre en citant un mauvais et puis un bon exemple. Intéressant. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement. Je sais aussi, mieux que personne, combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alors, le mauvais exemple, c'est tous ceux dans la province d'Asie qui l'ont abandonné, dont Phygèle et Hermogène. Bon. Abandonner, c'est intéressant. C'est pas le contraire d'être fidèle, de rester fidèle. C'est intéressant, cette distinction. Il dit, les uns sont l'exemple du contraire. Le bon exemple, c'est Onésiphore. Et il cite un petit peu ce qu'il a fait pour lui. Il a souvent réconforté Paul. Il n'a pas eu honte de lui. Mais a été le retrouver en prison, tout comme il a dit à Timothée de ne pas avoir honte de lui non plus. Bon, récapitulons ce que nous trouvons dans ce passage. On a creusé la question de la fidélité, et on a vu un très bon synonyme de la fidélité, c'est la constance. La constance dans notre relation avec Dieu, dans notre attachement à sa parole. Nous avons vu aussi que la foi est quelque chose qui s'entretient, qui se ravive tout comme un feu, qu'on entretient pour qu'il ne s'éteint pas. Et entretenir sa flamme, c'est un peu la même chose que demeurer en lui, tout comme on voit dans Jean 15. On soigne notre relation, notre connexion avec Dieu. Autrement dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Et Dieu nous donne du courage. Il nous permet d'oser témoigner de lui, parler de lui autour de nous, et nous savons en lui, en qui nous avons confiance. Et ça nous rend fort. Et grâce à la grâce, Dieu a choisi de nous associer, de nous faire participer à ce qu'il fait dans le monde. Et moi, je trouve ça très motivant. Prions. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à toi et à ta parole, à être constants et à raviver notre foi régulièrement, à rester attachés à toi. Et merci du courage que tu nous donnes et merci de combien tu veux nous associer à ton œuvre ici dans le monde. Amen.